the first sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
Oh yeah. 20h03 sur Radio G, tout de suite c'est l'heure de retrouver l'émission sportive de l'antenne, tout de suite c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission de Génération Sport, mardi 17 janvier 2023. On est bien ensemble sur Radio G pour parler de sport pendant une heure jusqu'à 21h, voilà, pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. À mes côtés aujourd'hui, tout le monde est présent. À ma gauche, Faustin, micro bleu. Salut Faustin.
Salut Alex.
La forme ?
Ouais, nickel.
T'as passé un bon week-end ?
Ouais, super. Une petite victoire, 102 à 53.
Oh, ouais. Trop facile.
Pour le premier match de région, ça fait plaisir.
Donc ça va, vous avez le niveau pour la région, largement. À ma droite, Cédric, qui est avec nous. Salut Cédric.
Salut tout le monde.
La forme ?
Ouais, ça va. Après ce long week-end d'événements sportifs.
Oui. C'est vrai, il s'est passé pas mal de choses.
On a eu le droit à beaucoup d'ascenseurs émotionnels ce week-end.
Effectivement. Justement, on va parler du programme de l'émission du jour. Alors, dans un premier temps, on va parler de sport local. Donc, on va revenir assez largement sur ce qui s'est passé au niveau de ce week-end. On aura un œil, justement, pour revenir sur le sport local, on aura un œil sur le match de l'EAB ce soir contre Saint-Vallier, puisque c'est la demi-finale retour de Leaders Cup. Et donc, voilà, il y a une place en finale à aller chercher. Et les Angevins sont plutôt en ballotage favorable. Donc, on suivra ça de près. Le match vient de commencer, c'était à 20h, le coup d'envoi. Donc, on suivra ça tout au long de l'émission. On parlera évidemment de ce qui s'est passé au niveau de la patinoire de l'Ice Park avec donc les Ducs d'Angers. On reviendra vraiment longuement sur ce week-end et donc voilà cette deuxième place pour les Ducs qui n'auront pas démérité, qui auront même peut-être espéré jusqu'à la dernière journée, même si voilà, les rêves se sont arrêtés un peu vite le dimanche. Sinon évidemment on parlera vite fait du SCO, même s'il y a pas grand chose à dire, hein. Encore une défaite, encore deux défaites, hein, d'ailleurs, pour les SCOistes. On reviendra sur la situation et on se posera peut-être la question de savoir si c'est vraiment mort pour la Ligue 1 l'année prochaine ou s'il y a peut-être un espoir, même si les statistiques ne sont pas en faveur des joueurs d'Abdel Bouazama. On fera une pause musicale et puis après on repartira sur l'international. On parlera de football, on parlera de hand et on parlera de basket, Faustin, avec donc ce match jeudi de NBA en France à Paris à la Caro Hotel Arena, donc entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls. Donc ce sera quelque chose d'intéressant à suivre. On va commencer du coup sans plus tarder par le football et le SCO. Après deux défaites pas forcément méritées hein, contre Ajaccio et Lorient, le SCO a encore montré de belles choses mercredi contre le leader parisien. C'était mercredi soir, mais sans pouvoir s'imposer et en concédant surtout une dixième défaite de suite contre le PSG. Quatre jours plus tard, l'adversaire était un petit peu plus à leur taille puisque les Angevins recevaient à Raymond Kopa Clermont. Malheureusement, les problèmes défensifs ont refait surface sur ce match et la passivité défensive justement des scoïstes fut sanctionnée de deux buts logiques avant l'heure de jeu. Dès le retour, après deux mois d'absence, Sofiane Boufal a réduit le score en fin de match sur un coup franc de Nabil Bentaleb, mais le but du Marocain ne changera rien. À l'issue de la rencontre, le SCO s'incline pour la 11e fois consécutive à une défaite du triste record de Dijon qui est de 12. Une surtout triste situation dont aucune équipe française n'a réussi à se relever dans l'histoire de la Ligue 1. Rien n'est réellement fait en interne pour inverser la tendance. Le mercato qui finit dans deux semaines ne décollera pas du côté des arrivées tant qu'il n'y aura pas de départ significatif. On pense fortement à Unai dont on entend des rumeurs du côté de l'Angleterre et aussi à Boufal hein, qui était annoncé sur le départ. Bentaleb aussi, hein, le très bon milieu de terrain algérien du SCO. Donc voilà, ça paraît compliqué. Il y a eu pas mal de stats qui sont sortis voilà, sur cette série de défaites, sur le nombre de points du SCO à la trêve, puisque voilà, c'était officiellement la 19e journée, la dernière de la phase aller. Est-ce qu'on peut dire que c'est quasiment officiel, même si je répète un peu la question chaque semaine, mais est-ce que vous avez quand même des motifs d'espoir que vous pouvez apercevoir sur les matchs, des prestations qui peuvent être encourageantes ou pas du tout?
Alors, il y a trois méthodes de pensée.
Vas-y.
Mathématiquement, c'est toujours possible.
Voilà.
Vu les écarts. Franchement, si tu n'as gagné quasiment aucun match sur la première partie de saison, je ne vois pas comment te qualifier.
Ouais, deux victoires seulement.
Et puis, c'est quasiment fini, quoi.
Ouais.
C'est,
pour toi, ça ne sert à rien d'espérer.
Il y a trop de choses. Enfin, ouais. ça traîne en interne. Enfin, y a rien.
Ouais,
ils sont où les renforts?
Il n'y a rien qui fait.
Il n'y a aucun départ d'acté, il n'y a aucun renfort. Alors on va dire les départs à l'arrière, bon, c'est nos joueurs qui marquent, autant qu'on les garde.
Ouais.
Mais il faut se renforcer. Enfin,
oui, oui.
Quitte à faire monter des jeunes.
Bien sûr.
De toute façon, mission suicide pour mission suicide, ça va être ça. Hein. Maintenant, c'est chaque match, c'est un pas plus vers le fossé. Hein.
Ouais, clairement. Comme tu disais. Bah, quitte à ce que ça soit d'abord les arrivées après les départs, autant qu'on se dépêche sur les départs. Enfin, non, l'inverse, je voulais dire l'inverse. Quitte à ce que ça soit d'abord les départs, puis les arrivées, autant se focaliser sur les départs. Voilà, faire en sorte que bah, les joueurs qui peuvent apporter de la masse salariale en plus, même des millions en plus, on pense à Unai ou Bentaleb, où on parle de quelques voilà, on s'approche de la dizaine de millions d'euros, autant se dépêcher sur ce dossier là quoi, pour après faire venir du monde. Toi Faustin, t'en penses quoi? Toi aussi tu penses que c'est cuit?
Ah, là c'est clair que ça c'est très compliqué hein. La seule lueur d'espoir qu'on a, c'est que justement, comme tu le disais, mathématiquement c'est possible.
Voilà. Bon. On a un plutôt bon calendrier hein, sur les prochains matchs, mais bon, quand on voit aussi ce que le SCO a fait contre des équipes de leur niveau face à direct, ça c'est pas franchement encourageant. Donc voilà, rien d'autre à rajouter sur le SCO.
Mais on voit que c'est les résultats jouent sur la présence au stade aussi.
Ah bah clairement. Oui,
malgré
oui.
Voilà, alors c'est bien de faire des offres au final de place à pas cher pour ouais, venir, mais
c'était le cas dimanche ouais. Avec 10 € la place.
Voilà, on voit que bah même avec ça, il y a un désamour quand même.
Ouais.
Du club.
Et justement, on parlait aussi de la nouvelle tribune. On disait que justement cette tribune du VIP, elle est arrivée donc en face entre guillemets de la caméra et on voyait les tribunes vides parce que justement c'était des prix très chers. C'était des tribunes présidentielles avec des places hors de prix, en tout cas pour les supporters du SCO. Et donc seulement en janvier, apparemment, selon Ouest France, Chaban serait entre guillemets d'accord pour faire plus de place dans cette tribune qui serait dédiée au grand public et limiter les places pour les VIP, si on peut dire ainsi, les places les plus chères.
Après, moi, j'ai jamais compris ce projet de tribune. Hein, je veux dire,
oui, bien sûr.
Les tribunes VIP, elles existaient déjà. Elles étaient.
Pourquoi les mettre
bien
dans la nouvelle,
apparemment, elles étaient convenables, mais.
Ouais.
À la rigueur, qu'on en fasse des nouvelles, s'il y avait effectivement plus de partenaires, je pouvais le comprendre.
Ouais.
Mais niveau partenaires, j'ai pas l'impression que ça ait bougé comme ça. Enfin, c'est bête à dire, mais vaut mieux vendre 10 000 places à 10 euros que,
oui, c'est ça,
que 10 places à 1 000 euros.
Hein. Ouais, c'est ça, clairement. Donc voilà, ce sera une très belle tribune pour la Ligue 2, peut-être.
Ouais, donc, bah ça a coûté cher en entretien.
Ah, par contre, oui, c'est clair. Parce que là, pour le coup, les supporters, ils seront peut-être beaucoup moins présents au stade.
Bah, de toute façon, oui, s'il y a une descente, je pense qu'il y aura sûrement aussi une descente aussi dans le chiffre des abonnés. Quoi.
Ouais. J'ai pas hâte du tout de me replonger dans la Ligue 2. Parce que, franchement, c'est pas pour dénigrer la Ligue 2, hein, mais c'est un championnat que je suis pas tellement.
C'est un championnat qui est un peu plus compliqué, on va dire. Étant donné qu'il y a moins de place pour monter, ça joue beaucoup plus, c'est beaucoup plus serré généralement. Techniquement, c'est quand même un championnat à suivre qui est un peu plus palpitant, on va dire.
Ouais, il y a certaines années où c'était compliqué, là c'est vrai qu'il y a de plus en plus de bons clubs. Donc voilà, on verra ça l'année prochaine, est-ce que le SCO sera en Ligue 2 ? Probablement. Mais voilà. Il y a une équipe qui carbure et qui, cette fois-ci, remplit des salles. C'est les Ducs d'Angers ce week-end. Les yeux du sport angevin étaient rivés sur l'Ice Park et la finale de Continental Cup qui opposait les Ducs d'Angers, les Devils de Cardiff, l'HK Nitra et l'AS Asiago. Le premier jour, après la victoire 5-3 de Nitra contre Asiago, les Ducs entraient en piste contre Cardiff et après l'ouverture du score angevine, les Gallois profitèrent d'une erreur défensive angevine pour égaliser à un partout. Au tir au but, le gardien Evan Colley repoussa 4 tentatives adverses pour permettre aux Angevins de remporter leur première victoire du week-end. Le lendemain, les hockeyeurs de Cardiff se vengèrent contre les Italiens d'Asiago avec un large succès 7-1. Le soir, le titre se jouait entre les Ducs et Nitra dans une patinoire angevine bouillante. Menée rapidement 2-0, les joueurs de Jason O'Leary firent un comeback incroyable dans les derniers instants de la rencontre dans une ambiance bouillante et se rapprochaient donc pour égaliser donc à deux partout. Malheureusement, les Slovaques l'emportèrent 3-2 au tir au but et se rapprochaient donc à ce moment-là du titre européen. Mais il restait une maigre chance à ce moment-là pour les Ducs d'être champion d'Europe. Il fallait à la fois une victoire d'Asiago, contre Asiago, donc le service minimum, on va dire. Dans le temps réglementaire, très important de le préciser. Et une victoire dans le même temps sur le score exact de 1-0 en prolongation de Cardiff contre Nitra. Malheureusement, donc rien de tout ça arriva. Le lendemain, Nitra l'emporta contre Cardiff 3-2. Et les Ducs, en plus de ça, s'inclinèrent de nouveau en prolongation contre Asiago 3-2 après avoir remonté encore 2 buts en fin de match. Au final, les Angevins terminent quand même avec 2 défaites. 2 défaites en prolongation et au tir au but. Angers termine quand même 2e de cette finale de Continental Cup. Derrière Nitra, donc, qui est sacré champion de la compétition. Une belle performance, 8 ans après une 3e place dans cette même compétition. Un seul joueur, d'ailleurs, pour l'anecdote, était présent lors des 2 éditions. C'était Robin Gabory, qui était là en 2015 et 2023, qui était évidemment le capitaine et meilleur joueur de cette équipe. Cédric, t'étais pas au stade, enfin à la patinoire.
Non.
T'as suivi un peu quand même d'un œil, j'imagine, cette.
Ouais, j'ai pu voir les 2 matchs puisqu'ils étaient bien diffusés. Le troisième match, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu de diffusion.
Ouais, c'était en différé, je crois.
Ouais, c'est un peu dommage, du coup. Donc, forcément, bah, quand on a une notification sur le téléphone, on va pas aller regarder après le différé, mais ouais, comme je disais, ascenseur émotionnel, hein, qui peut résumer au moins les deux rencontres que j'ai pu voir, surtout la deuxième, parce que bon, voilà, c'est vrai que ça allait être dur, hein, contre les Slovènes, et bah, ça s'est confirmé, bien que ça a été solide, hein, parce que le premier but, il est vraiment marqué, genre il reste 13 secondes, ensuite... je crois que ça ne joue à pas grand-chose pour que le deuxième, quand le deuxième rentre. Et puis, il y a ces deux minutes de folie où...
En prolongation, du coup
au tiers-temps, troisième. Où, voilà, ça, il sonne la révolte, il marque, et derrière... ils ont pris limite à froid. Enfin, direct, ils mettent le deuxième, et là, ça part en termes d'ambiance, c'est parti en vrille.
Ah bah,
enfin,
clairement,
c'est...
Ouais.
Et après, voilà, la loterie des pénaux. Hein, ça, je crois que c'est encore plus dur de marquer au hockey qu'au foot, parce que quand on voit la taille de la cage, avec les goalers qu'il y a quand même pour protéger, voilà, dès qu'ils s'allongent, c'est quasiment fermé.
Pour expliquer un peu à ceux qui ne sont pas forcément érudits de hockey, c'est donc les tirs au but. On part du rond. Enfin, il y a le palais qui est posé au rond central. C'est ça?
C'est ça, ouais.
Et chaque attaquant part de son camp pour prendre le balai et aller tirer au près. Il n'y a pas forcément de limite. Il y a quand même une petite zone sur le gardien.
Il y a une zone quand même où tu ne peux pas rentrer pour tirer.
Ouais, mais c'est la même, on va dire, qu'il y a peut-être.
Je crois que ça représente le cercle.
Il y a un cercle. Et donc voilà, après, voilà, c'est à l'appréciation de chacun un peu. Et donc voilà, moi, pour avoir vu le premier match, en tout cas, une bonne partie du premier match, le deuxième but, vraiment, je trouve qu'il est assez rageant. Il est assez rageant contre Cardiff, qu'on prend, enfin, le but de l'égalisation, en tout cas, qu'on prend parce que, c'est une erreur. Je dirais pas stupide, mais vraiment qui aurait pu être évité. En fait, voilà, on ressort la balle dans notre camp, on est tranquille avec le gardien et son défenseur, et au final, voilà, il y a un joueur de Cardiff qui s'interpose et qui vient égaliser. Et au tir au but, c'est vrai que c'est dingue. Hein. Ça met une vraie adrénaline.
Ah oui, c'est et surtout qu'il faut vraiment trouver le.
À un moment, en fait, à un moment donné, les Ducs ils perdent. Ils perdent, je crois, 1-0. Enfin, ils sont menés, enfin, ils ratent. Puis en face, le gardien a été incroyable. Donc, Evan Colley, hein, le gardien des Ducs, qui a d'ailleurs terminé meilleur gardien de la finale, MVP de la finale. Et ouais, c'était assez impressionnant. Et donc, le lendemain, malheureusement, je n'ai pas pu voir le deuxième match, mais ça aurait pu être. J'imagine que ça devait être incroyable.
Les pénaux, ils ont été plus durs parce qu'ils ont vraiment l'habitude. Hein.
Ouais, en face, ouais.
En face, ils ont l'habitude, voilà. Donc, ça a été un peu plus costaud, mais c'est vrai que c'est.
Ouais.
Ça reste un exercice impressionnant à voir quand même, parce qu'il faut vraiment savoir anticiper où on va tirer.
Ouais.
Mais il faut aussi anticiper le retour du gardien au moment où on va tirer.
Ouais.
En termes de tactique d'attaque, c'est intéressant. Ouais.
Il y a la trajectoire aussi, voilà, des joueurs, comment ils vont prendre le balai, quelle trajectoire ils vont prendre dans leur course. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est quand même une déception parce que voilà, il y avait peut-être mieux à faire. Heureusement, il y a cette deuxième place parce que d'ailleurs, c'est vrai que donc ça se joue à l'égalité avec
Cardiff. Fait, en termes de classement. Le premier match, il compte comme un nul avec une victoire au péno.
Ouais.
Donc ça rajoute, je crois, un point.
C'est ça.
Au nul. Le deuxième match, on est sur le même schéma.
Ouais.
Sauf que voilà, on prend le point des péno. Et bon, sur le troisième, c'est une défaite, mais au
prolongation, donc on prend un point quand même, je crois.
Il y a peut-être un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu le classement. En gros, on termine à 4 points, donc je crois que ça va être 2.
C'est ça, c'est
1 et 1. Et pour Cardiff, ils sont à égalité de points. Sauf que j'imagine qu'il doit y avoir un truc de goulagage particulier.
C'est pas encore un match, en fait.
Quoi ?
C'est le fait que Cardiff ait perdu son match qui fait qu'ils sont en troisième.
C'est ça. Donc ça permet à Angers d'être devant. Est-ce qu'on a quand même une pointe de déception, de regret sur cette finale?
Oui et non, je dirais. Parce que... Voilà, ça s'est joué à la loterie. Hein.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut leur reprocher quelque chose sur l'ensemble du tournoi? Je dirais que non.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il y a eu des choses quand même encourageantes. Après, c'est plus cette énergie qu'ils ont mis pour les trois jours. Enfin, on va dire surtout les deux jours, parce que le troisième match, je ne sais pas trop si ça n'a pas tourné aussi au niveau de l'effectif, tout ça. Mais si on est capable de tenir contre une équipe européenne,
il faut le faire
contre. Mais même dès ce soir.
Et oui,
ça va sûrement être dur ce soir. Mais contre Rennes, contre Grenoble.
Rouen, peut-être.
Tu voulais... oui.
Pas Rennes, oui.
Rouen, voilà, va falloir trouver, je pense, ce type d'énergie, ce type d'engouement aussi derrière les supporters, avoir les pousser pareil sur des gros matchs comme ça. Et je pense que ça va sûrement apporter quelque chose, de toute façon, cette coupe. Et forcément, voilà, le scénario, si on avait joué un match plus tôt le dimanche, est-ce que c'est nous qui aurions mis la pression, tu vois. Bon, c'est un peu les hasards du calendrier qui ont fait ça. Voilà, quand tu reçois, tu joues en soirée, tu joues forcément le dernier match. Voilà, après, je pense ils n'ont pas cherché à calculer, ils ont fait leur tournoi.
Ouais, clairement. Mais c'est vrai que c'est positif pour la suite.
C'est ça.
Cette détermination après, tu te mets en mission et que tu arrives à te surpasser, quoi.
C'est ça, ça fait une semaine après compliquée parce que voilà, il y a eu l'élimination en Coupe de France, donc forcément plus de possibilités de se qualifier à nouveau pour cette coupe-là.
Oui, c'est vrai. Et donc ils ne joueront pas avant longtemps.
Et encore, je ne sais pas si cette année la Coupe de France va donner une place en Europe, puisqu'apparemment, suite à ce tournoi-là, il y a une place de moins pour la France en Europe.
Ok.
Donc peut-être que le champion de la Magnus va peut-être prendre cette place-là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ouais.
Bah là, normalement, le champion de la Magnus, il va en Ligue des Champions, lui.
Il va dans
le...
Oui, voilà.
Donc, qui est l'équipe... Oui, okay.
Mais apparemment, on n'aurait plus de place...
Ok, en dessous.
Faut voir réellement comment ça va être.
De toute façon, on verra ça.
Ouais.
En tout cas, voilà. Donc le match a débuté entre Angers et Grenoble. Ça se joue justement à Grenoble. C'est le quatrième match en cinq jours hein, pour les Ducs. Donc ça enchaîne. Et c'est vrai que ce serait cool qu'ils gardent cette mentalité-là pour la fin de la saison.
Et en extérieur en plus ce soir, tant pis.
Exactement. Faustin, on va passer à toi. C'est vrai que je suis zappé entre le SCO et les Ducs, mais c'est pas fini. On va parler basket, basket local. Par quoi tu veux commencer?
Moi, je vais commencer par l'UFAB.
Vas-y, c'est parti.
Voilà, les Angevines qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Coupe d'Europe en remportant leur deuxième match sur le score de 65-64 contre l'Estudiantes Madrid. Elles se déplaceront mercredi prochain en Belgique pour affronter Castorbren, puis les recevront le 1er février en quête de quart de finale. Elles ont ensuite joué contre Villeneuve-d'Ascq et sont malheureusement inclinées sur le score de 84-69. Elles joueront samedi prochain contre les Flammes Carolo de Charleville pour se préparer à l'Eurocoupe.
Donc voilà, on peut le dire avant que tu poursuives, une autre qualif européenne primordiale donc pour un club angevin. Donc c'est hyper intéressant de voir que l'UFA va continuer à ce stade-là.
Ouais, dans la continuité de la progression du club, qui est là pour apprendre.
EAB maintenant ?
Ouais, l'EAB qui ont la semaine dernière gagné contre le leader du championnat, Saint-Quentin, sur le score de 80-68, puis se sont ensuite imposés une nouvelle fois sur le fil en prolongation de un petit point sur le score de 82-83 contre Évreux. Ils se placent à la 7e position au bout de 15 journées. Ils jouent actuellement, comme tu le disais tout à l'heure, pour la demi-finale de Leaders Cup. Actuellement, il y a 6 minutes dans le deuxième quart-temps et le score est de 35 partout. 37-35, Saint-Vallier vient de marquer malheureusement. Voilà, donc en quête de finale s'il remporte ce match ou s'il perd de moins de 12 points. Car ils avaient gagné à l'aller de 12 points.
Ok, d'accord. Voilà.
Sinon, ils joueront aussi leur prochain match vendredi contre Nantes en championnat.
Et Cholet pour terminer.
Ouais, Cholet, c'était pas une bonne semaine malheureusement pour les hommes de Laurent Villa qui ont démarré par une défaite face à Porto en Coupe d'Europe sur le score de 99 à 78. Ils avaient ensuite gros affaire en championnat car ils recevaient les leaders Monaco. Match qui s'est soulevé sur une défaite de seulement un point sur le score de 88 à 89. C'était le dernier match de la phase aller du championnat de Betclic Elite. Les Choletais se trouvent donc à la troisième position du classement avec une victoire seulement du deuxième, les Metz 92.
Et donc, ils ne sont pas passés loin donc, contre Monaco. Tu as pu voir le match ou pas?
Non, malheureusement.
Mais ouais, ça aurait pu, comme on l'a dit la semaine dernière, ça aurait pu clairement permettre au Châtelet, pardon, de passer à égalité premier.
Ça serait retrouvé trois premiers avec Monaco et les Mets.
C'est ça, donc cette défaite de un point qui fait mal. On va passer maintenant à la pause musicale. On va se retrouver juste après pour parler... pour parler football, handball et évidemment un peu de basket. On s'écoute tout de suite Soul King et Niska avec leur titre Baladé et on se retrouve juste après.
Je suis les ouais, je roule sur la costa. Pas de thé sur tous les posters. J'ai visé tout là-haut, écoutez jusqu'à Macao. Tu critiques mais t'es KO. Là c'est Soul King et Charo des Charo. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Elle veut le faire dans le Range Rover.
Dans la jungle.
Oui, elle veut que je bois dans son verre.
Oh my God.
Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde.
En caisse de qui je t'en ai pas encore ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Bangston me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser.
Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser.
C'est trop de la D. C'est plus la même qu'avant. Chacun le croit pas qu'on t'a zappé. On va te chercher dans toute la France. J'fais bouger le tisme. J'fais partir le Tosma. La zone elle est minée. Faut vestir les menottes. Charlie Delta au quartier latin. Jogo Jota ou Kiki Lotin. Méchant, méchant, on a gâté le coin. Car depuis longtemps, on est culotté.
Oui, elle veut que je bois dans son verre.
C'est la merde.
Oui, elle veut le faire dans le Range Rover.
Dans la jungle.
Oui, elle veut que je bois dans son verre.
Oh my God.
Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je vais me balader, mais c'est plus comme avant. J'entrerai le quartier toute ma vie. Même si je fais le tour du monde, je veux me balader, mais c'est plus comme avant. J'entrerai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde.
Encaissé de qui je t'en ai bon qu'à ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser.
Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser.
Soul King et Niska pour leur titre Baladé. On est de retour sur Radio G 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr. On est donc de retour dans Génération Sport pour parler jusqu'à 21h de toute l'actualité sportive. On va commencer sans plus tarder. Ah, juste avant ça, on va corriger un petit peu ce que tu as dit, Faustin, sur le AB. Le match aller, c'était pas plus 12, mais c'était plus 34. Donc avec cette victoire 106 à 72. Un point du coup sur le match, ça a évolué un petit peu ou
là,
pas?
Là, c'est 36-40 pour Saint-Vallier et deux lancers à suivre pour le AB.
Donc voilà, tout se passe bien.
Le but,
c'est pas couler justement rapidement.
Ouais, voilà.
De pas perdre le large rapidement. On va commencer.
Et les Ducs sont menés 1-0.
Déjà, ça commence mal.
Après 3 minutes, enfin au bout de 3 minutes, il y a le premier but. Ouais.
D'accord. Eh bien, voilà, on suivra donc ces deux rencontres sur l'émission. On va parler donc maintenant de football. Deux journées de Ligue 1 se sont écoulées depuis la dernière émission et pas de grosse évolution au classement, même si l'étau se resserre devant. Après sa défaite dimanche contre Rennes, la deuxième en trois matchs, le PSG n'a plus que 3 points d'avance sur Lens, victorieux d'Auxerre samedi et tenu en échec 2 partout contre Strasbourg dans la semaine. Marseille se rapproche aussi avec seulement 5 points de retard sur les Parisiens grâce à leur bonne série qu'ils ont poursuivie la semaine dernière avec des succès à 3 et contre Lorient. À la 4e place, Monaco revient bien également derrière après avoir étrillé Ajaccio 7-1 ce week-end. Dans le milieu de tableau, Lyon végète à la 9e place, pas capable de battre Nantes mercredi 0-0 et défait à domicile contre Strasbourg samedi 2-1. Lyonnais s'enfoncent donc dans la crise alors que Clermont, Nice et Reims reviennent à leur hauteur. Pour le maintien, la lutte fait rage avec le sursaut notamment strasbourgeois de cette semaine qui leur a permis, avec 4 points sur 6 obtenus, de sortir de la zone de relégation. Brest et Ajaccio sont juste derrière à égalité de points et Auxerre est avant-dernier à 5 points de la lanterne rouge Angers. Par rapport justement, je me disais au niveau du haut du classement, on parle pas, enfin, on débriefe pas assez la Ligue 1 ici peut-être, mais sur le haut du classement, on voit que le PSG peine beaucoup. Est-ce que pour vous, on peut avoir une belle surprise sur la fin du championnat ? Alors effectivement, voilà, le PSG est champion de l'automne, mais est-ce que ça peut être bousculé sur cette phase retour ?
Je sais pas, parce qu'on est quand même dans une période aussi un peu spéciale. Normalement, là, c'est plus la période où c'est censé être les temps de repos.
Ouais.
On est censé préparer tranquillement la Coupe d'Europe. Là, il y a eu la Coupe du Monde qui est passée par là. Mine de rien, Paris avait quand même pas mal de joueurs
impliqués.
Pas des moindres, j'ai envie de dire.
Oui.
Donc, je suis pas surpris qu'il y ait un coup de ralentisseur.
Pourtant, c'est juste un coup de mou. Et c'est pas.
En tout cas, pour l'instant, oui, je pense que c'est lié, quoi. Enfin, c'est le temps de se remettre dedans. Apparemment, voilà, sur le dernier match, Messi et Neymar, c'était pas trop ça.
Ouais.
Donc voilà, on peut peut-être voir des pistes là. C'est sûr que février va arriver vite. C'est un petit peu inquiétant pour aller chercher l'ogre du Bayern. Mais bon, je dirais, après, pour le championnat, il n'y a rien d'alarmant.
Oui.
Et puis après, voilà, on sait que derrière, bah, Lens, c'est solide hein, depuis le début de la saison, depuis plusieurs saisons. Donc je suis pas surpris qu'ils mettent plus ou moins la pression. Hein,
ouais. Sinon, toi, Faustin, t'en penses quoi ? Est-ce que tu penses que Lens ou Marseille, parce qu'il y a Marseille aussi, peuvent aller chercher le PSG ?
Bah, quand même, ça m'étonnerait. Hein. Ça, je pense que c'est juste un petit coup de mou pour le PSG, ouais. Où à chaque fois, ils sortent pas forcément le meilleur 11 à chaque match aussi.
Ouais.
Comme je crois que c'était Mbappé qui était pas titulaire sur les deux matchs où ils ont perdu et tout comme ça. Donc ouais. Je me fais pas de soucis pour eux. Après, on sait jamais. Hein. C'est déjà arrivé. Je crois que c'était Lille il y a 2 ans.
Lille, Monaco, Montpellier. Ouais, voilà, ça remonte au début de l'ère QSI.
Qui leur avait pris la Ligue 1. Donc on sait jamais. Une belle surprise, ça peut arriver. Ce serait cool. Je pense que ce serait serré jusqu'à la fin plutôt que le PSG soit champion 4 journées avant
c'est mieux.
Championnat.
Puis même voilà, la saison où Lille a gagné, il y avait beaucoup de suspense. Je me souviens sur les 3-4 dernières journées avec encore 4 équipes qui pouvaient être championnes. Donc il y avait Monaco, Lyon, Lille et PSG qui étaient encore concernés. Là, il y a 2 autres équipes hein, qui sont différentes en plus de ces équipes-là à l'époque. Ça remonte qu'il y a seulement 2 ans. Donc Lens et Marseille, donc ça va être très intéressant.
Et puis les matchs retour du coup vont être importants pour ça.
Oui, bien sûr. Ouais.
Les matchs bon, derrière, il y a quand même les outsiders hein, qui sont là aussi, pas si loin que ça. Hein.
Ouais,
quand on voit Rennes.
Rennes et Monaco, ouais.
Rennes qui a eu un match, on va dire, un peu volé sur les deux, en termes d'arbitrage, ça n'a pas aidé.
Clermont, tu parles ?
Contre Clermont, ouais, je crois que c'est ça.
Où il y a eu 2 rouges.
Où c'est compliqué, ouais, en termes d'arbitrage, mais qui propose quand même un projet intéressant.
Ouais. Malgré les blessures.
C'est ça. Et maintenant, en plus, ils vont avoir un gardien 100% dédié.
Oui.
À Rennes, donc sur leur projet, je pense que voilà, ils peuvent faire des bonnes choses.
Effectivement, ça va être intéressant. On va suivre ça sur la suite de la saison de Ligue 1, mais oui, ce sera intéressant à suivre, savoir si Lens et Marseille peuvent bousculer un petit peu tout ça. Faustin, on va repartir du côté du basket avec la NBA. Alors d'abord peut-être Betclic Elite et Euroleague.
Tout à fait.
Eh bien vas-y, à toi l'honneur.
En Betclic Elite, comme je le disais tout à l'heure avec Cholet, c'était le dernier match pour toutes les équipes de la phase aller de la saison. L'occasion de faire un point sur le classement. avec donc un solide podium depuis un certain temps, composé de Monaco, les Metz ainsi que Cholet, suivi de près par Dijon. Bourg-en-Bresse et Le Mans se retrouvent à égalité à la 5e position, suivi eux de Limoges et du champion en titre l'ASVEL, avec un bilan de 9 victoires et 8 défaites, qui est assez en difficulté dans ce début de saison. On retrouve, ce milieu de saison du coup maintenant, ouais. On retrouve ensuite Paris, Strasbourg et Roanne à égalité aussi, puis Nanterre et Dunkerque, suivi de Nancy, Pau et Blois. Enfin, Le Portel et Fos-sur-Mer clôturent ce classement. Maintenant, la NBA, ouais. Car beaucoup de choses à dire quand même cette semaine, mis à oui. part le NBA Paris Game qui aura lieu jeudi. Tout d'abord, un record d'affluence a eu lieu lors d'un match avec 68 323 spectateurs présents à l'Alamo Dome, habituellement utilisé pour l'équipe de foot américain de San Antonio, et utilisé jusqu'en 2001 donc, par l'équipe de basket. L'équipe texane a décidé de rejouer dans cette salle pour une occasion particulière, celle de fêter le 50e anniversaire de la franchise. Malgré la défaite face aux Warriors, les Spurs ont une fois de plus gagné le cœur de leurs fans. Deuxième presque record de la semaine, c'est celui de LeBron James, qui à 38 ans est devenu le deuxième joueur de l'histoire à passer la barre des 38 000 points en carrière. Il lui reste d'ailleurs seulement 315 points à mettre lors de cette saison sûrement, pour devenir le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, dépassant ainsi les 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar, qui avait lui aussi établi ce record en évoluant aux Lakers.
C'est vrai que c'est la boucle est bouclée.
Exactement, ce serait tout à fait ça. Peut-être que les débats seront clos pour dire qui est le GOAT du basket.
Ça va donner des pistes. Ouais. On parle maintenant de ce qui se passe à Paris dans deux jours.
Pour finir, donc jeudi aura lieu le tant attendu NBA Paris Games. Ce match opposera les Chicago Bulls aux Pistons de Détroit, pour nous rappeler les meilleures finales NBA des années 90. Ouais. Ce sera l'occasion pour l'unique Français et ancien Choletais, Kylian Hayes, de revenir jouer en France. En plus, il est très en forme en ce moment en NBA, en espérant qu'il sorte une grosse perf, même si sur le papier, son équipe, qui est donc les Pistons, n'est pas favori face à Chicago. À savoir que les deux équipes sont déjà arrivées depuis hier et se sont entraînées aujourd'hui à tour de rôle dans la salle des Mets.
D'accord, donc ça se passe bien.
Ouais, ça se passe bien. Ils ont découvert Paris, les ouais. Bulls ont fait des petites photos devant la Tour Eiffel, comme à l'habitude. Voilà.
Comme des touristes.
Exactement.
Sinon, toi, ton pronostic,
t'as une idée des tarifs?
Ouais, j'ai essayé d'avoir mes places. Oh. Je sais pas eu à la sortie. S'il y avait une queue, une file d'attente, et je crois que j'étais dans les 10 000 premiers. Il restait que des places à 10 000 balles. J'ai passé mon tour.
Aïe, aïe, aïe. Ça peut se comprendre. Quand on est en première, on n'a pas 10 000 balles sous le coude.
Non, mais c'est... Enfin, je vois pas l'intérêt dans ces cas-là de promouvoir la NBA à l'Europe.
Oui, c'est pour les
riches. Si c'est pour
riches,
des places...
Les places les moins chères, je crois que c'était 90 euros, et après ça allait à 120.
90 euros, ça ne me choque pas, parce que pour un match, par exemple, de l'équipe de France, au Stade de France, on est dans ces tarifs-là, on va dire en place moyenne. Mais voilà, enfin, sur un événement comme ça, par contre, ça va faire des belles images, parce qu'on n'aura que des VIP. Oui. Quand on était invité, on aura quelques fans qui seront saignés.
Ouais, quoi, qui en font des prêts à la banque.
C'est ça,
ça va être super.
Mais c'est le même problème aussi quand
désolé, Faustin, on n'a pas l'accréditation ici à Radio G pour le match, on est désolé.
Par contre, on en connaît peut-être un qui l'aura peut-être un jour et qui pourra envoyer l'ascenseur.
Max.
Ouais,
peut-être. Hein, peut-être. Il y a encore du chemin, je pense. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, ça va être un match un peu intéressant. Oui, je voulais te dire ton pronostic pour ce match. C'est un match de saison régulière, donc c'est souvent compliqué.
C'est un match banal, finalement. Mais moi, je dirais quand même Chicago, qui sont cette saison largement meilleurs que les Pistons. Ouais. À voir si Kylian Hayes
c'est ça ce que je me dis. Voilà, est-ce que Kylian Hayes
prend feu à l'Accor Hotel Arena.
Pour le coup, il y aura des gros fans de Kylian Hayes. Il y aura les fans de Kylian Hayes et il y aura les fans des Bulls, parce que je pense qu'en France, il y a une bonne communauté. Je pense que ça parle beaucoup plus au public français, les Bulls, que les Pistons.
Puis au Bulls, il y a Nikola Vucevic, qui a des origines francophones. Je crois peut-être qu'il a nationalité suisse.
Il y a peut-être un peu de monde qui va l'aider. Sinon, tu connais... je pense pas que tu l'aies dit, mais le classement des équipes, la situation un peu des équipes au classement.
De tête, je te dirais.
Je vais regarder ça pendant que.
À l'ouest, il me semble que c'est. J'hésite. C'est peut-être Denver premier ou les Pelicans.
Non, je parlais pour le match, hein, la situation des deux clubs.
Ah d'accord. Bah donc
c'est un match de conférence est.
Ouais.
Donc deux équipes à l'est.
Non.
Non.
Si. Attends.
Détroit
et Chicago, Chicago, c'est juste à côté. Donc.
Ouais, c'est ça, c'est à l'est. Oui, c'est vrai, c'est un derby en fait qui est organisé.
Ouais,
en... Je pense que c'est pas très loin. Les Pistons donc sont avant-derniers de la conférence Est et les Bulls sont dixièmes. Donc ils vont se battre pour
le play-in.
Le play-in, voilà. Ouais, c'est pas les play-offs, c'est le play-in qui est à partir de la dixième place, c'est ça.
La douzième.
La douzième place. Donc,
de la douzième jusqu'à la huitième.
Et ils font pas une bonne saison, les Bulls.
Les Bulls, c'est moyen par rapport à ce à quoi ils étaient attendus, par rapport à leur roster de joueurs, où ils ont quand même des grosses stars comme Zach LaVine ou DeMar DeRozan. Ils sont un peu en contre-performance cette saison.
Ok, ça marche.
Et après, Détroit, on les attendait à tanker justement leur saison pour Victor Wembanyama. C'est un peu ce qui est en train de se passer. En plus, ils ont Kay Cunningham, leur meneur de base titulaire, qui s'est blessé.
Okay.
Donc c'est compliqué aussi pour eux.
Ok, ça marche. Donc voilà, vous savez tout, chers auditeurs, sur cette affiche qu'il faudra suivre absolument. Au niveau de la diffusion télé, ce sera sur beIN, ça c'est clair, pour ceux qui sont abonnés.
À 21h, oui.
Et ce sera aussi sur Canal. Mais est-ce que c'est en clair? J'ai plus l'info en tête.
Non. Ça m'étonnerait.
T'as déjà vu Canal plus ou moins?
Peut-être qu'ils sont sympas.
Et je te rappelle qu'ils sont en pleine renégociation avec certaines chaînes. Alors attends, ils vont pas offrir des choses.
Oui, bon, ok.
Gratos, non? Je pense que.
Abonnez beIN, vous avez la chance. Les autres. On dira pas.
Après, peut-être sur le NBA.
League Pass,
il sera sûrement dessus.
Donc,
apparemment, qu'il y a un pass très intéressant quand on est fan de la NBA.
Ça coûte assez cher quand même.
Ah ouais,
ouais
c'est... Plus que beIN, par exemple
Ou
qu'une chaîne en France.
Les abonnements sont spéciaux, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'abonnes pour suivre une équipe.
Ah ouais,
le All-Star Game aussi de compris.
Le lord du prix, tu saurais pas dire
Il me semble que genre pour cet abonnement-là, pour la saison, ça doit être autour des 100 euros.
100 euros pour par exemple les Raptors,
ouais,
au hasard.
Ouais, c'est ça, au hasard.
ce qui est pas si cher que ça.
Ah ouais, je sais pas, parce qu'après l'abonnement,
tu divises
500 euros l'année, je crois.
Ouais, mais tu divises au nombre de matchs.
Ouais,
mais par mois...
Ouais, c'est vrai.
Ah, c'est vrai que comme ça enchaîne beaucoup. Et...
Bah, c'est vrai que
si on est sur un thème, en fait, quand on est vraiment un gros fan.
Ouais, c'est ça. Par exemple, c'est vrai qu'en Ligue 1, il y a 10 matchs par semaine. Voilà, donc c'est
peut-être. Et puis, il y a du contenu quand même supplémentaire. Sur ce média-là, je pense que tu dois avoir des anciens matchs, des choses comme ça, des reportages exclusifs, un peu comme fait le Network.
Il y a une version encore plus chère où genre tu sais là sur ton téléphone ou quoi tu peux régler la caméra que tu veux mettre comme ça.
Tu deviens réel du match c'est super. C'est les Américains quelque part. Bref, en tout cas voilà, merci Faustin. Voilà, comme je disais, vous connaissez tout sur ce match tant attendu entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons.
Apparemment, on a été mauvaise langue.
C'est en clair.
Il serait diffusé en clair.
Wow. Je l'avais dit, je savais parce que. En fait, j'ai pensé, je crois que déjà j'avais vu passer, surtout, c'est quand même un match, c'est un événement sportif de grande ampleur, quelque part. Ça concerne, comme ça peut être Roland-Garros, Tour de France, où ils sont obligés de mettre en clair, peut-être. Voilà. Donc, effectivement, c'est en clair. Chaîne 4, hein, pour ceux qui ont la télé. Donc, voilà, ça va être très intéressant à suivre pour les fans de basket français. On va passer sur un autre sport de salle avec le handball. Début réussi pour les Bleus qui ont commencé leur aventure au Mondial par un succès contre le pays hôte dès le premier match. Les hommes de Guillaume Gilles ont dû batailler pour s'offrir les Polonais 26-24 dans une ambiance de folie. Tout s'est ensuite très bien passé contre l'Arabie Saoudite sans problème. Avec ce large succès 41-23, enfin, les Français ont de nouveau fait parler leur talent hier soir en battant à la Slovénie, nation qui aurait pu leur poser des problèmes. La partie a été dans l'ensemble bien gérée et les partenaires de Nikola Karabatic se sont imposés 35-31. La suite du tournoi se fera dans le tour principal, donc qui regroupe les trois meilleures équipes des groupes A et B en ce qui concerne la France. Les Bleus seront donc opposés prochainement à l'Espagne, à l'Iran et au Monténégro. Match d'ailleurs contre le Monténégro demain à 18h. Et puis pour l'Espagne, donc voilà, ce serait un vrai test pour les Bleus sur ce match hein, qui va être vraiment décisif pour la qualification pour les quarts de finale et peut-être d'avoir un adversaire un peu plus tranquille sur ces quarts de finale. L'Espagne, alors je vais essayer de retrouver quand est-ce que c'est ce gros match contre les Espagnols.
C'est jeudi, il me semble.
C'est jeudi, voilà, 22 janvier, 21h, Espagne-France, le gros choc.
Puis ce qui va être diffusé gratuitement sur TMC.
Ok. TMC. Le premier match était sur TFX, donc voilà. Et puis Iran, France sera du coup logiquement. Attends, mais du coup on est mardi. C'est jeudi.
Ouais.
Non, c'est jeudi Iran. L'Iran. Attends, non. Qu'est-ce que je raconte? Alors 18. Demain on est mercredi. C'est Monténégro. Vendredi Iran. Et deux jours plus tard, donc dimanche, ce sera dimanche, l'Espagne.
C'est dimanche, du coup.
C'est dimanche, voilà. Dimanche, Espagne, Espagne-France, 21h, qui sera effectivement sûrement en clair.
Oui,
au niveau des autres équipes de cette compétition, dans le groupe 2, on retrouvera quand même une poule abordable, assez serrée, entre le Brésil, la Suède, qui est quand même fait partie favori, notamment aussi la Hongrie, l'Islande et le Portugal. Donc ça se jouera sûrement entre ces équipes-là pour la place en quart de finale. Et puis après, pour le reste, les favoris hein, gèrent aussi un peu comme la France, avec le Danemark qui joue ce soir son troisième match, mais qui a gagné ses deux premiers, qui est d'ores et déjà qualifié. La Croatie, ça se passe plutôt de façon un peu inattendue, avec cette défaite assez large contre l'Égypte. Donc voilà, l'Égypte qui va aussi peut-être se qualifier pour les quarts de finale. Et à noter aussi la bonne performance, je voulais souligner ça parce que je trouve ça intéressant. Les États-Unis ont disputé leur premier mondial depuis près de 20 ans. Voilà, en 2021, ils n'avaient pas pu parce qu'il y avait une avalanche de Covid dans l'équipe. Et à l'époque, il y avait même un joueur du Scandball. Et là, donc, effectivement, c'est Team USA donc, de handball et ben, voilà, qui se développe et qui arrive à se qualifier pour le deuxième tour hein, de ce mondial. Donc je trouvais ça intéressant. Voilà, peut-être que dans plusieurs années, on aura les États-Unis qui peuvent arriver à de très bons résultats au niveau du handball. Et puis sinon, les équipes africaines sont un petit peu en dessous, même si le Cap-Vert s'est qualifié pour le prochain tour. Sinon, voilà, il y a eu l'élimination de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Donc voilà, ce sera à suivre. Sur la suite de la compétition, ce que notamment les nations non européennes sont capables de faire sur la suite de la compétition. Au niveau des matchs, c'est vrai que la semaine dernière, je n'avais pas forcément pu finir ma chronique sur ce mondial, sur les réelles chances des Bleus. Déjà, au niveau des blessures, on peut faire un point parce que, comme je le disais la semaine dernière, de base, il y avait déjà Karl Konan, Wesley Pardin, Hugo Desca et Emrik Mine qui étaient blessés. Dans la compétition, Dika même s'est blessé, n'a pu disputer que le premier match. Et Nazim Remeli, il y a eu une petite crainte hier, mais c'est seulement une crampe apparemment aux abdos pour le joueur de Kielce. Donc voilà. Alors, c'est à suivre, hein, ces dossiers-là, mais on aura des nouvelles potentiellement dans les prochains jours. Au niveau des impressions, moi je trouve que la France a fait une très bonne entrée en la matière contre la Pologne, c'était pas gagné d'avance et je trouve que voilà, ça a été, même si c'est une courte victoire, c'est qu'une victoire quand même et ça aurait pu être un match piège. Voilà, premier match dans la compétition d'inauguration face au pays hôte, donc c'est plutôt cool que les Bleus l'aient emporté Et puis voilà, 3 sur 3, pas d'erreur, pas de problème. Voilà, effectivement, comme on a dit, on suivra les blessés. Les bonnes satisfactions, notamment à l'aile droite, parce qu'il y a encore aussi une petite blessure pour Valentin Porte, qui est vraiment ce garant d'expérience sur cette aile droite. Et c'est Yannis Lenne, hein, qui marque pas mal de buts depuis le début de la compétition et qui peut former aussi un duo donc avec son aîné Porte pour bien se compléter. Sinon, voilà, on a toujours une équipe qui est assez solide dans tous les compartiments du jeu et qui est capable de mettre à mal n'importe quelle équipe. Donc on suivra ça contre l'Espagne. Ça va être très intéressant. Ce sera, j'ai envie de dire, une finale avant l'heure, puisque ça a été les petites finales des deux dernières compétitions. Donc on suivra ça évidemment de près en ce qui concerne l'équipe de France de handball. Ça, voilà, je vous conseille de regarder, hein, pour ceux qui veulent, je dirais pas découvrir ce sport, mais voilà, être un petit peu aux aguets de tout ce qui se passe sur ce sport, parce que voilà, c'est aussi bien de voir la France briller à certains moments. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité sportive locale et internationale. Petit point peut-être score sur l'EAB notamment.
Ouais, c'est la mi-temps, ça va reprendre dans environ 3 minutes et il y a 51-48 pour l'EAB qui est repassé devant.
D'accord. Cédric, est-ce que tu as des évolutions au niveau du match des Ducs contre Grenoble?
Je vais te dire ça tout de suite, c'est en cours d'actualisation.
D'accord. Toujours, alors on rappelle qu'il y a eu 1-0 pour
Il y a toujours 1-0, premier tiers terminé.
D'accord. Et puis on va terminer par une autre info qui concerne, donc, on le disait la semaine dernière, le Dakar qui, je crois, s'est achevé. Oui, il s'est achevé. Oui. Donc ce week-end, c'est Nasser Al-Attiyah. Pardon, je vais y arriver. Le Qatari qui roule pour Toyota, qui a remporté ce dimanche donc le Dakar pour la 5e fois de sa carrière, la 2e consécutive. Et c'est Sébastien Loeb, le Français, qui arrive 2e de ce classement.
Ouais, qui a remonté de loin.
Ouais, ouais, qui est, voilà, qui aurait peut-être non, il aurait été compliqué pour la victoire finale.
Bah, surtout oui, qu'il a eu des gros soucis dans les premières spéciales, donc c'était un peu compliqué.
Ouais.
Et voilà, il a pu remonter.
Il a gagné,
oui, dernière
des étapes, six étapes consécutives. Et effectivement, alors pour la moto, je pourrais pas dire qu'il a gagné, mais voilà, en tout cas pour l'auto, c'est Al-Attiyah et donc suivi par Loeb, Sébastien Loeb. Un classique, pas forcément de grandes choses qui ont été.
Ça devient dur de regarder le Dakar, quoi.
À cause du décalage horaire ou de la diffusion?
Décalage horaire, oui. Et puis, autant avant, c'était mis en avant sur le service public. Voilà, on avait les émissions de Biwak la nuit, quand c'était le vrai Paris-Dakar, mais on avait les émissions aussi en fin de journée. Enfin, on avait du matériel, ouais. Pour voir un peu les spéciales. Et là, j'ai l'impression que il y a peut-être des magazines, mais qui sont tellement placés des heures pas forcément accessibles. C'est
à la télé, la seule fois où j'ai vu que ça en a parlé, il me semble que c'est à Toulouse Sport, le dimanche soir.
Ouais, voilà, mais
c'est vrai que la couverture est de moins en moins forte, j'ai l'impression. Il y a moins de hype, entre guillemets. Ouais. J'allais oublier le tennis. Puisque effectivement c'est le début de l'Open d'Australie depuis dimanche. Et nos Français ont été, certains ont bien géré, mais il y a pas mal d'éliminés déjà sur ce premier tour. Au niveau de ceux qui sont déjà qualifiés, on va parler d'eux. Nous avons donc Lestienne qui est qualifié, qui jouera à Nori au prochain tour. Nous avons Corentin Moutet qui a réalisé un vrai marathon et qui s'est imposé contre je vais retrouver ça tout de suite.
C'est le décalage horaire.
C'est le décalage horaire, je vais y arriver. Voilà, contre le chinois Wu, qui avait bénéficié d'une wildcard. Donc voilà, Moutet qui l'a emporté en 5-7, un vrai marathon.
T'as dit qu'il a bénéficié d'une wildcard?
D'une wildcard, pardon. J'ai un peu le nez bouché, c'est compliqué pour moi.
Il se fait ses propres cartes pour venir.
Sinon, Jérémy Chardy s'est imposé. contre le Colombien Galan en 4-7 et il jouera le Britannique Evans. Sinon, il y a pour le premier tour, il y a un duo franco-français, un duel plutôt franco-français, qui n'a pas encore eu lieu entre Richard Gasquet et Hugo Humbert. Donc, on suivra ça de près. C'est cette nuit, je crois, à 2h30 du matin. Bonzi l'a emporté contre Bellucci et il jouera Carreno Busta au prochain tour. Sinon, voilà, pas mal, pas beaucoup de qualifiés côté français. C'est assez peu, mais voilà, il n'y a pas vraiment, voilà, on ne retrouve pas. Alors, il y a eu les retraites hein, de Gilles Simon, de Tsonga, mais je crois que mon fils ne s'est pas qualifié. Et donc, Gasquet, quand même, c'est le seul un peu en forme, puisqu'il a gagné avant le tournoi un tournoi ATP 250. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi pour lui. C'était le tournoi d'Auckland. Au niveau des Françaises, on va aller du côté du tournoi WTA. L'Angevine Clara Burel s'est imposée contre. Une Australienne donc, qui jouait à domicile 6-3, 6-4, Gibson, voilà, c'est le nom de l'Australienne. Et elle jouera donc l'Angevine Krejcikova au prochain tour, tête de série numéro 20. Donc une bonne performance pour notre Angevine. Et puis sinon, il y a Caroline Garcia qui a été expéditive contre la Canadienne Seboff. Et elle retrouvera une autre Canadienne au prochain tour, Fernandez, qui a battu au tour précédent Alizé Cornet, donc voilà, qui était aussi une des favorites entre guillemets côté français, et ce sont les deux seules pour l'instant qualifiées côté française, donc c'est un petit peu léger pour l'instant, et je crois que le double messieurs n'a pas encore commencé, ça démarre un peu plus tard, et donc on suivra ça de près peut-être avec un Nicolas Mahut. Voilà pour le tennis. Juste avant de clôturer,
tu veux les scores un petit peu sur les matchs en cours ou...
Vas-y, bah dis-moi, mais
dans limite peut-être le match plus intéressant entre Gasquet et Hubert.
Il y a Humbert. Ah, ça joue en ce moment.
Ça joue en ce moment.
Pardon. Ok.
Il y a 2-1 pour Humbert.
D'accord. 2-1 pour Hugo Humbert. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a Adrian Manarino qui est
Toisner, ouais.
Exactement. Donc il a perdu la première manche et il gagne 4-3.
Il est en train de gagner la deuxième, ouais.
Et Locoli qui
gagne les deux premiers, qui perd les deux suivants,
ouais.
Et là qui se fait mener dans le, bah ça doit être le tie break.
Et je crois qu'en plus ce joueur-là, il a son match a été interrompu par la pluie à 6 partout. Donc juste avant le jeu décisif, donc ça va être compliqué. Mais sinon au niveau des favoris, il y a pas eu d'élimination flagrante. Voilà, Rude aujourd'hui s'est qualifié, Djokovic s'est qualifié. Il y a deux jours, c'était Nadal.
Ouais, donc, Nadal qui joue ce
pas
soir.
Pas de défaite pour les gros favoris. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur l'actualité sportive locale et internationale. On va donc se retrouver la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ce sera une semaine avant l'émission spéciale UFAB. Et donc voilà, on vous dira bien sûr bientôt qui on recevra dans l'émission. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour cette émission. Vous avez fait du bon boulot, ça je peux vous le dire. Donc voilà, Faustin, on rappelle le rendez-vous 21h jeudi.
Jeudi soir, ouais.
Donc les Détroit Pistons contre les Chicago Bulls.
Sauf si vous avez 1000 euros à lui fournir pour une place. Hein. Il fera un rapport personnalisé du match.
Donc voilà pour cette émission qui a été chargée, on avait pas mal de choses à dire. On va se quitter tout de suite avec le générique et on va vous laisser avec la rediffusion des plantes vagabondes. Et on se dit à la semaine prochaine.
À toutes et à tous sur les ondes de Radio G.